Amen. Voilà, nous sommes tous rassemblés et on va ouvrir la parole du Seigneur. J'aimerais vous lire quelques textes qui semblent se contredire, mais la Bible se complète toujours. Et il y a de bonnes raisons à justement ces côtés opposés à ces textes, bien sûr. Et j'aimerais qu'on puisse commencer ces quelques lectures dans un premier verset que nous lisons dans le psaume, au chapitre, le psaume 27, au verset 5, où il est ici l'expression du psalmiste qui exprime tout son bien-être, à l'abri. On peut lire à partir du verset 4. « Je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. » On a ici une confiance totale envers celui qui appartient à Dieu, dans le fait que Dieu saura le mettre en sécurité. Et il y voit même la possibilité, il n'a même pas l'ombre d'un doute. Il dit, il me protégera dans son tabernacle. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Donc, sa tente, son tabernacle, c'est là où il habite. Le Seigneur, l'Éternel, me mettra à l'abri chez lui, auprès de lui, dans sa présence. Ici, c'est toute l'assurance de David, ici, mais que nous pouvons tous avoir. Et regardez à l'inverse un autre texte dans la Genèse. Visiblement, Dieu n'a pas forcément toujours voulu, semble-t-il, avoir l'homme auprès de lui. Genèse, chapitre 3. Au verset 23, Genèse chapitre 3, verset 23, on y lit quelque chose. Le Seigneur avait fait un jardin, il avait tout étudié pour que l'homme y soit heureux. Et au verset 23, qu'est-ce que nous lisons ? L'Éternel Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il cultive le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoie pour garder le chemin de l'arbre de vie. On a une assurance d'un côté de quelqu'un qui est sûr d'être auprès de Dieu, dans sa présence, chez lui. Et là, on a un autre texte qui nous dit que Dieu a chassé l'homme de chez lui, là où il se trouvait, là où il aimait parcourir et avoir du temps avec l'homme. Là, on trouve une situation complètement inverse où l'homme se retrouve chassé d'un lieu qui a été vraiment fait pour lui en plus. Il se retrouve en dehors de ce jardin qui symbolise ici toute la présence de Dieu. Éden, c'est un mot qui est devenu paradis en fait. Le mot paradis vient d'Éden. Le paradis, ça veut dire jardin. Et le jardin d'Éden est un symbole du paradis. L'homme ne peut accéder. Ici, on a Adam et Ève qui sont chassés du jardin. Pourquoi ? Parce qu'ils portent en eux quelque chose que Dieu ne peut plus tolérer en sa présence. C'est le péché. L'homme a péché. Et l'homme s'est ainsi empoisonné par le péché. Mais Dieu voyait le péché, bien que Adam et Ève aient été pardonnés, ils avaient en eux cette marque que Dieu ne pouvait plus supporter de voir. Et c'est pour cela qu'ils ont été chassés. Dieu ne peut pas supporter le péché. On voit d'un côté une sécurité, un abri, et d'un autre côté, le fait d'être chassé. Mais j'aimerais qu'on vienne un tout petit peu avant. On y voit Adam qui justement vient de pécher et quel est son réflexe ? Il va se cacher. Verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures et des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu, parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ? » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu, je me suis donc caché. » L'Éternel Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » On va s'arrêter là. L'homme vient de pécher, il vient de désobéir à Dieu, il savait ce qu'il faisait parce qu'il avait reçu lui-même l'instruction de Dieu. Donc c'est en toute connaissance de cause qu'il a enfreint la règle que Dieu avait établie. Et on voit où nous mène le péché. Alors qu'à un moment donné, on le voit dans le chapitre 2, vous le direz vous-même, la manière dont la femme a été créée est assez intéressante. Parce qu'on y voit que Dieu voit le besoin de l'homme, qu'il ne peut pas être seul. Et entre ce moment-là où Dieu voit le besoin de l'homme d'être aidé par une femme, eh bien, il lui fait venir à lui tous les animaux pour qu'il lui donne annonce. Demande ce que ça vient faire là. Et juste après, la création de la femme. Et pendant tout ce moment où l'homme va pouvoir nommer ainsi les animaux, il va se rendre compte que là où les animaux sont en couple, lui, il est tout seul. Il va y avoir un besoin qui va naître dans son cœur. Et Dieu, c'est ce qu'il voulait susciter dans sa bonté. Il voulait susciter ce besoin parce qu'il savait qu'il allait y répondre. C'est là justement où on a toute la bienveillance de Dieu qui des fois se permet de susciter en nous des besoins pour qu'on le lui demande. Et une fois qu'on le lui demande, il donne. Et la femme est ainsi créée. Et Adam est heureux d'avoir cette aide à ses côtés. Mais quand le péché vient, ça change de note. Et là, pour une fois, on a un homme qui est habile dans la parole et qui va faire un reproche à deux personnes en même temps. Il fait un reproche à sa femme et il fait un reproche à Dieu parce qu'il dit « c'est toi qui l'as mis là quand même ». Vous savez les fausses excuses. Devant le péché, on est beaucoup à essayer de s'excuser, à se dire « mais non, mais si je suis comme ça, c'est mon caractère, je n'y peux rien ». Nous sommes tous comme Adam, nous sommes tous pécheurs. Et le problème, c'est que le péché, il nous amène toujours à nous enfermer sur nous-mêmes et à chercher des excuses. Adam a cherché une excuse. Il a dit que ce n'est pas de sa faute, c'est de sa femme. C'est un peu facile. Il a fait son choix. Il savait ce qu'il avait à faire. Il a fait son choix. Et nous, on cherche aussi des excuses. Ah mais moi, je suis tellement dans la souffrance que je ne peux pas me convertir, c'est pas possible. Je souffre trop, c'est pas juste, la vie est injuste, si Dieu existait, je ne souffrirais pas comme ça. Or, il y en a qui aussi dans la souffrance acceptent Dieu et qui peuvent ainsi expérimenter aussi sa grâce. Et ils prouvent par là même que la souffrance n'est pas un frein. Au contraire, la Bible dit qu'au jour du malheur, réfléchis. Et ce texte, il est écrit, pourquoi ? Pour qu'on puisse réaliser le fait que nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Adam, il va être dans une situation où il se cherche des excuses. On essaye de se justifier. Il y en a qui vont essayer de se justifier derrière leurs bonnes œuvres, derrière leurs bonnes actions, pour se dire, mais bon, là ça va pas, d'accord, mais là ça va quand même. Mais devant Dieu, ça tient pas ça. Parce que le poids de ce qui ne va pas n'a rien à voir avec le poids de ce qui va, de toute façon. Et on n'y arrivera jamais. On peut essayer de trouver des tas et des tas d'excuses pour se dire que nous ne voulons pas nous réconcilier avec Dieu. Ici, on voit une chose dans ce passage, c'est que celui qui cherche le contact, c'est Dieu. Et il pose des questions qu'il n'accuse même pas. Il cherche vraiment à rétablir le contact. L'homme a essayé de se cacher. Il a essayé de se cacher physiquement, mais se cacher derrière des excuses. D'ailleurs, le titre de ce message, c'est celui-ci. Où es-tu caché ? L'homme se cache. Il essaye de se cacher par lui-même, de se trouver une planque, comme on dit, pour essayer d'échapper au regard de Dieu. Antoine l'a dit tout à l'heure, le regard de Dieu, il est perçant. Et tout œil, enfin, personne ne pourra échapper à son regard. Dieu, il voit absolument tout. Et là où l'homme essaye de se cacher, là on a deux cachettes. On a la cachette physique, parce qu'il pensait que Dieu ne l'aurait pas vu. Et on a la cachette des excuses. On a la cachette des excuses. On essaye de se justifier comme on peut, mais on n'est pas justifiable. Toute justification que nous essaierons de produire nous-mêmes est mauvaise. Il n'y en a pas une seule qui peut tenir. La volonté de Dieu, c'était pas de chasser l'homme. C'était pas de se retrouver dans cette situation avec l'homme. Dieu, il avait fait le jardin pour que l'homme y puisse vivre heureux. Et face au danger, Dieu avait prévenu Adam. Et c'est ainsi que finalement, Dieu a toujours voulu protéger l'homme. Ça a toujours été sa volonté, il a toujours voulu nous faire du bien. Ça a toujours été la volonté de Dieu que de faire du bien à l'homme. Et ici, Adam et Ève vont être pardonnés parce que deux animaux vont être tués. Et ils vont pouvoir ainsi, ces deux animaux qui sont tués nous parlent bien sûr du pardon que Dieu donne à travers Jésus-Christ. J'aimerais lire un autre texte. Dans Exode au chapitre 12. Ici, quand même, dans cette affaire, Adam et Ève, ils vont quand même bien réagir. Ils vont accepter le sacrifice des animaux. Ils auraient pu se dire, oh non, 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 tu ne vas pas tuer deux animaux, tant pis, on va se débrouiller, on va faire comme on peut. Non, 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 c'est notre faute en plus. Et Dieu leur a fait la grâce de tuer des animaux pour qu'ils soient revêtus comme il fallait, pour qu'ils soient couverts. Et l'homme a bien réagi dans le sens où il a accepté ce que Dieu lui a donné. Et ici, dans le livre de l'Exode, on a une situation où il est évoqué le cas de ce qui va arriver dans l'avenir, où il va y avoir un jugement. Et là, on voit toute la différence. Exode au chapitre 12. À ce moment ici, le peuple d'Israël est en Égypte et la dernière plaie va arriver. L'ange destructeur va descendre et va tuer tout premier-né dans tout le pays d'Égypte. Et il n'y en a pas un qui va réchapper, que ce soit homme ou animal. Et Dieu va prendre le soin de les cacher. Je reviens à ma question, où es-tu caché ? Et c'est très intéressant de savoir si je suis dans une cachette que j'essaye de me faire moi-même, comme Adam et Ève, et qui ont essayé de faire des vêtements eux-mêmes, mais c'était pas la bonne manière. Ce qu'on essaye de faire par nous-mêmes, ça ne fonctionnera jamais. Et les vraies cachettes, celles qui nous protègent vraiment, sont celles où Dieu nous place. Et ici, dans l'Exode, au chapitre 12, on y voit justement ce que Dieu dit. Au verset 21, Exode 12, 21, Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, « Allez prendre du petit bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin, quand l'Éternel traversera l'Égypte pour frapper et qu'il verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. En anglais, ça veut dire « pass over », ce qui veut dire, c'est le nom même de la Pâque chez les Anglais. Passer au-dessus, c'est ça que veut dire la Pâque. Il passe au-dessus. Et c'est Dieu qui passe au-dessus, hein. Il passe par-dessus la porte et ne laissera pas le destructeur rentrer dans vos maisons pour vous frapper. Ici, c'est Dieu qui cache. C'est Dieu qui nous cache. Et ceux qui sont dans la maison, ils sont en sécurité. Pour rentrer dans les maisons, il y avait deux choses à faire. Il fallait mettre le sang sur le linteau des portes, c'était le signal qui permettait aux destructeurs de ne pas frapper. Il fallait être à l'intérieur, il fallait passer la porte. Et ici, on rebondit très facilement sur le fait que Jésus a dit « Je suis la porte ». Le sang qui est sur les linteaux, ça symbolise le sang de Christ lui-même qui s'est donné. Le sang, c'est la vie. Jésus a donné sa vie pour que nous soyons, nous, à l'abri. Pour que nous soyons, nous, en sécurité. Et à cause de ce sang de Christ, nous sommes protégés. Et ceux qui ne sont pas dans ces maisons ne sont pas protégés. Le regard de ce destructeur, il est perçant. Et j'aimerais qu'on puisse lire ce texte, même s'il est sévère. C'est dans Amos au chapitre 9. Amos chapitre 9. Ce sont des versets qui nous font penser aussi à un psaume qu'on va lire après pour terminer. Mais on y voit de quelle manière cela va se passer le jour du jugement. Amos chapitre 9, versets 2 à 4. S'ils pénètrent dans le séjour des morts, ma main les en arrachera. S'ils montent aux cieux, je les en ferai descendre. S'ils se cachent au sommet du Carmel, je les y chercherai et je les saisirai. S'ils se dérobent à mes regards dans le fond de la mer, là j'ordonnerai aux serpents de les mordre. S'ils vont en captivité devant leurs ennemis, là j'ordonnerai à l'épée de les faire périr. J'aurai l'œil sur eux pour leur malheur. Et non pour leur bonheur. Le regard de Dieu est perçant. Nul ne peut échapper. Seuls ceux qui se sont mis à l'abri. Dans ces abris que Dieu avait lui-même prévus. Ces maisons qui sont simplement, qui portent juste un signal. C'est fou, hein. Il n'était pas question de s'enfermer à clé ni rien. Il fallait juste mettre le sang. Si vous faites ça pour ne pas être volé chez vous, ça ne va pas fonctionner. Mais quand Dieu a décrété qu'une chose empêcherait une autre chose d'arriver, c'est suffisant. Vous avez remarqué, on a lu tout à l'heure, que David se disait en sécurité, où ça ? Dans une tente. Comme forteresse, je pense qu'il y a mieux qu'une tente. Et pourtant, quand c'est la tente du Seigneur, on ne peut pas être plus à l'abri. Quand on est à l'endroit que Dieu a prévu, eh bien, nous sommes à l'abri. J'aimerais te dire cet après-midi qu'il n'y a qu'un seul abri. C'est celui que Dieu a prévu. Et le seul abri, eh bien, on s'y rend en passant par la porte. Ça veut dire que, comme Adam l'a fait, il faut reconnaître son péché. Il faut venir devant Dieu et reconsidérer qui nous sommes. Ne pas se chercher d'excuses, parce que les excuses ne nous sauveront jamais. Celui qui cherche à trouver des excuses, eh bien, il se retrouvera dans le ciel à devoir se chercher de nouvelles excuses. Et c'est ces mêmes excuses qui puniront la personne. On peut être dans des situations où on se cherche des excuses pour un oui, pour un non. Mais en réagissant de la sorte, on ne se place pas dans l'abri. Pour se placer dans l'abri, il faut se reconnaître coupable devant Dieu, de notre nature pécheresse. Cette nature qui nous amène à faire des choses qui nous font honte même, mais du moins à faire des choses qui sont désagréables à Dieu. Nous sommes pécheurs. C'est une identité. Et avec cette identité-là, je ne peux pas être protégé. La seule manière d'être protégé, c'est d'acquérir une nouvelle identité, un cœur nouveau, un cœur changé. Celui-là seul que Dieu peut regarder. Dieu regarde au cœur, ça ne change jamais. Ce verset-là, c'est une loi. Dieu regarde au cœur. Et s'il voit que ton cœur n'a pas été changé, il ne peut pas te recevoir. S'il voit que tu as le cœur qu'il a changé, alors il pourra te recevoir. Ce cœur changé, tu ne l'obtiendras que par la foi dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix du calvaire. Et j'aimerais qu'on termine cette pensée avec le psaume 139, où on retrouve finalement ces mêmes paroles. Le chrétien, il se sait caché, il est à l'abri, il est bien. Et il y a notamment une chose qui lui permet aussi d'être en sécurité, c'est le fait que Dieu sache tout de lui. Et pour le vrai chrétien, le vrai disciple, c'est une vraie sécurité que de savoir ainsi que Dieu a accès à notre cœur. Parce qu'il sait quand on souffre, il sait quand on est triste, il sait ce qui se trame à l'intérieur. Et de la même manière qu'il a donné la femme à Adam, sachant ce qu'il y avait dans le cœur d'Adam, eh bien, nous y trouverons la même sécurité, la même joie aussi, parce que Dieu verra nos afflictions et il saura agir de manière à ce que nous puissions avoir cette joie, à ce que nous puissions vraiment vivre en bénéficiant de tous ses bienfaits. Il regarde à notre cœur, pas pour nous faire du mal, comme on l'a lu dans Amos, mais il regarde à notre cœur pour nous faire du bien. C'est là toute la différence entre celui qui s'est caché à l'abri de Dieu et celui qui essaye de se trouver une cachette par lui-même et celui qui essaye de se trouver des excuses ou autre. C'est pas pareil. Dans le psaume 139, on a cette vérité du chrétien. Il sait, le premier verset, il exprime très bien la chose, éternel. Tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. On voit que ce soit géographiquement ou intérieurement, Dieu sait absolument tout de nous. Mais quand on est avec un cœur changé, eh bien, ce regard pénétrant, eh bien, il nous met en joie. Il nous donne la joie. Parce qu'on sait que Dieu sait où nous sommes. On sait qu'en fonction de nos besoins, il saura intervenir. Il sait où on est. Les parents, ils aiment toujours savoir où sont leurs enfants. Pourquoi ? Pour les protéger. Parce que si jamais il y a un problème, on veut savoir où ils sont. C'est pareil avec Dieu. Et ici, on a cette garantie, pour nous, on a cette garantie en tant qu'enfant de Dieu. On sait qu'il sait où on est. Donc, si jamais il y a un truc qui ne va pas, on sait qu'il saura comment s'y prendre pour nous ramener, pour nous éviter le danger. Ce que des parents ne peuvent pas toujours faire, d'ailleurs. Même si des fois on sait où sont nos enfants, on est limité. Nous ne sommes pas partout. Dieu, lui, il est partout et il sait ce qu'il fait et il est capable de nous entourer de sa grâce, de nous protéger. Ici, on a le chrétien qui est dans cette sécurité. Lisons les versets 7, 8, 9, je crois. Où irais-je loin de ton esprit et où fuirais-je loin de ta face Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Quand on lit cette expression, c'est plus de l'émerveillement que de la peur, hein, on est d'accord. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Si on revient, on tourne quelques pages en arrière, on a aussi le psaume 91 qui exprime justement cette sécurité qu'a le chrétien qui a réglé sa vie, qui a accepté le sacrifice de Jésus à la croix. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce simple verset doit nous aider, doit nous convaincre sur le fait que nous ne craignons rien. Vous lirez ce psaume et vous verrez combien celui qui appartient à Dieu, qui est caché dans l'abri que Dieu a fait, il est à l'abri vraiment. Il est à l'abri du danger et il est sous la bienveillance de Dieu. Celui qui, à l'inverse, persiste et dans sa résistance et continue de se chercher des excuses, il n'est pas à l'abri du tout. Et j'aimerais juste terminer pour qu'on puisse quand même réfléchir aussi. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, non, c'est dans Luc. C'est Luc. Dix-neuf, je crois. Vous avez la parabole des mines. Une mine, dans cette parabole, c'est quelque chose de très très grande valeur. La mine, elle représente le salut. Le salut que nous obtenons le jour où on s'est garanti, entre guillemets, d'être à l'abri. Seulement, avec le salut que Dieu nous donne, il y a ce verset qui dit « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement ». Là, je m'adresse un peu plus aux chrétiens. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous avez reçu l'Évangile. Vous avez reçu la bonne nouvelle et par là même le salut. Alors, parce que vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Et ici, dans cette parabole des mines, on a ce mauvais serviteur qui a aussi reçu sa mine, mais qui ne va pas bien réagir. Au verset 15, Luc 19, 15, « Lorsqu'il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint, il dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint, il dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit aussi, « Sois établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Car j'avais peur de toi parce que tu es... » Regardez les excuses. « J'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Tout ça, c'est des excuses. Ce sont des choses que lui pensait ou qu'il a dit publiquement pour médire, pour même calomnier. Le maître, devant tout le monde, publiquement, il est en train de dire que le maître est pas bon. Et regardez ici, le verset 22, il lui dit, « Je te jugerai sur tes paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé et moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas placé mon argent dans une banque? Et à mon retour, je l'aurais retiré avec un intérêt. Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Ils lui dirent, Seigneur, il a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et égorgez-les en ma présence. Ici, on a notamment le verset 26, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Celui qui pense être à l'abri, alors qu'il fait des choses qui sont vis-à-vis de Dieu, qui sont mauvaises. Quelqu'un qui se dit, mais moi, j'ai pris le baptême, je me suis repenti, je me suis converti, j'ai pris le baptême, je viens à l'église. Mais qui, dans son cœur ou ailleurs, dans sa vie, pratique le péché? Eh bien, il est dans cette même situation de celui qui a caché cette mine. Il est en danger. Il n'est plus à l'abri. Il pense être à l'abri, mais il n'y est pas. Parce qu'il n'a pas pris la décision de suivre le Seigneur de tout son cœur. Suivre le Seigneur de tout son cœur, c'est pas simplement dire, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, je réalise ce que tu as fait pour moi à la croix, et puis paf, je reprends ma vie comme si de rien n'était, et finalement, il n'y a pas vraiment de demi-tour. On continue la vie comme ça. Du coup, personne ne voit que nous nous sommes convertis, tout va bien, ça a été quelque chose que nous cachons. On le cache. On a reçu le salut, entre guillemets, mais on ne veut pas trop que ça se sache. Ça va à l'inverse de ce que Dieu a dit. On pourra justifier devant Dieu d'avoir fait l'expérience, etc., d'avoir reçu même le salut. Mais ici, on a encore une preuve que le salut, il peut se perdre. La mine que ce serviteur avait, elle lui est enlevée. Le salut peut se perdre. Et ce n'est pas parce qu'un jour on s'est engagé, si on commence à garder la pratique du péché, à nourrir des choses à l'intérieur, à être dans la résistance par rapport à d'autres choses, nous sommes plus à l'abri. Celui, peut-être c'est arrivé, des personnes d'Israël, pendant ce moment particulier où le destructeur est passé, où des personnes se seraient dit, ben, moi je vais sortir de la maison. Ils sortent de l'abri et ils se retrouvent en danger. J'aimerais juste donner cet avertissement. Où es-tu caché? Est-ce que tu es bien sûr d'être bien caché? Ou est-ce que dans ton cœur, il y a aussi des choses qui font que finalement tu ne serais plus à l'abri? Le Seigneur veut que nous puissions réfléchir à ces choses. J'aimerais qu'on se recueille quelques instants. Si tu le sais dans ton cœur, que tu n'es pas à l'abri, tu peux t'approcher de Dieu avec ce cœur sincère. Peut-être que tu te crois à l'abri. Tu te crois caché comme Adam, qui se croyait caché. Peut-être que tu te crois caché parce qu'un jour, tu as fait l'expérience du salut, mais tu n'es plus à l'abri parce qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui n'est pas bon du tout et que Dieu ne pourra pas supporter parce que le cœur qu'il voit n'est plus le cœur changé, mais il voit le cœur d'avant la conversion parce que ce cœur a laissé pousser des choses qui sont mauvaises. Dans ce cas de figure-là aussi, tu peux t'approcher de Dieu et tu peux lui demander pardon pour retourner vraiment à l'abri. Retourner dans cet abri que Dieu a prévu pour que tu sois protégé et que tu puisses enfin vivre aussi ce que Dieu a prévu pour toi. Ce n'est qu'à l'abri, à l'ombre de ses ailes, comme nous l'avons lu, que le chrétien peut expérimenter toute cette grâce de Dieu. Peut expérimenter le bonheur de lui appartenir, la paix qui ne vient que de Dieu, la joie qui ne vient que de Dieu, la confiance qui, malgré les épreuves, va tenir ferme parce qu'elle est basée sur quelque chose qui vient de Dieu. C'est un vrai abri que de s'être réconcilié avec Dieu. Est-ce que dans ton cœur, tu ressens ou pas ce besoin d'être à l'abri? Est-ce que, à la lumière de ce qui vient d'être partagé, tu réalises que tu n'es peut-être pas à l'abri, alors que tu penses l'être? Le Seigneur t'appelle dans ton cœur à bien réfléchir et à t'approcher de lui. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, alors que nous sommes tous là réunis devant toi, à la lumière de ce qui a été partagé, je te prie, Seigneur, pour que si des personnes dans leur cœur t'appellent au secours, tu puisses intervenir. C'est ta volonté, Seigneur. Et je te rends grâce parce que nous en sommes sûrs que c'est ta volonté. Je te prie pour que le Saint-Esprit puisse frapper à la porte des cœurs et que s'il y a une situation où le cœur n'est pas en règle avec toi, que cette personne puisse avoir cette bonne réflexion, puisse avoir ce bon état d'esprit, que de reconnaître son tort, que d'écouter ce que tu dis. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, que c'est ma prière, que nous tous qui soyons là, qui sommes là, nous repartions de ce lieu tous protégés, à l'ombre de tes ailes, comme c'est écrit dans ta parole. Seigneur, s'il te plaît, je te le prie, je te le demande de tout mon cœur, et je te remercie pour ce que tu fais dans les cœurs. Amen.